du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour la fête de l'Ascension. Les 11 disciples s'en vont en Galilée, à la montagne que Jésus leur a désignée. Quand ils le voient, ils se prosternent, mais certains ont des doutes. Jésus s'approche d'eux et leur adresse ces paroles.
« Tout pouvoir m'a été donné aux cieux et sur terre. Allez donc, faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, André.
Bonjour, Georges. Georges, ce matin, ce passage me trouble et même me pose question. Les actes des apôtres et le récit de Matthieu ne sont-ils pas contradictoires? L'un situe la dernière rencontre de Jésus à Jérusalem et puis l'autre en Galilée.
Oui, ce passage forme la finale du récit évangélique de Matthieu et il est, en effet, très différent de la finale de Luc. Luc situe la dernière rencontre entre Jésus et ses disciples à Béthanie, le village de Marthe et de Marie, qui est proche de Jérusalem. Luc parle de l'ascension de Jésus, alors que Matthieu, dans ce texte, ne décrit pas visuellement vraiment son départ. Comment expliquer ces différences? Il ne faut jamais perdre de vue que les évangiles sont avant tout des catéchèses. Ils racontent l'histoire de Jésus, bien sûr, mais en fonction du message qu'ils veulent illustrer. Et les lieux qui sont choisis le sont donc davantage pour leur valeur symbolique que pour la réalité historique elle-même. Alors, pour nous, essayons d'éclairer le message qui se trouve dans ce texte.
Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée.
Oui, ils agissent là selon ce que le ressuscité leur a demandé par l'intermédiaire des femmes.
« Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. »
Oui, cela fait aussi écho à ce qu'avait dit Jésus au mont des Oliviers avant son arrestation.
« Cette nuit même, tous vous tomberez à cause de moi. » Il est écrit, « Je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
Alors pourquoi la Galilée? C'est la Galilée des païens, le carrefour des nations, comme l'on disait alors. En effet, cette région de la Palestine était peuplée, bien sûr, de juifs, mais aussi de gens qui sont des païens qui appartiennent à d'autres peuples.
Et pourquoi Jésus ressuscité y convoque-t-il ses disciples?
Alors, sans doute pour bien indiquer qu'il y a maintenant un nouveau départ de sa mission. Jusque-là, cette mission s'adressait au peuple de Dieu qui est Israël, Israël dont le centre était Jérusalem, le lieu où se trouve le temple qui est la demeure de Dieu. Alors que maintenant, depuis la résurrection, le peuple de Dieu n'est plus le seul Israël, il va devoir accueillir tous les peuples païens. Et pour Matthieu, le centre symbolique de ce peuple nouveau, ce ne sera plus Jérusalem, mais la Galilée, le carrefour des nations.
Les disciples s'en vont à la montagne que Jésus leur a désignée.
Le récit, on le voit, ne mentionne pas le nom précis de cette montagne, et peut-être parce qu'il veut fixer notre attention sur le symbole que la montagne représente. Dans toute la Bible, en effet, la montagne est le lieu de la rencontre de Dieu. C'est là que Dieu s'y révèle et qu'il fait entendre sa parole. Alors donnons quelques exemples, c'est sur la montagne du Sinaï que Moïse va recevoir de Dieu les 10 paroles qui sont le cœur de la Torah, qui est l'enseignement divin révélé à Israël. Et de même, c'est sur la montagne que Jésus va proclamer les béatitudes. Les béatitudes, et les chapitres qui suivent, qui forment la propre interprétation de Jésus, que Jésus fait de la Torah. Matthieu a rassemblé dans ses chapitres l'essentiel de l'enseignement de Jésus. Encore un autre exemple, la montagne de la Transfiguration. Là, il n'y a pas un enseignement de Jésus, mais plutôt la confirmation de l'enseignement par la voix du Père. En effet, Jésus s'entretient avec Moïse et Élie du choix qu'il a fait de marcher librement vers sa mort, d'aller vers la croix. Et la voix du Père va retentir pour confirmer Jésus dans ce choix.
« Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. »
Écoutez-le, donc écoutez son enseignement. Sur la montagne de Galilée, où se trouve maintenant notre récit, eh bien Jésus ressuscité se trouve non plus du côté de l'humain, mais déjà du côté de Dieu. Maintenant, ce n'est plus Dieu qui se fait voir comme dans les récits de la Première Alliance. C'est Jésus ressuscité qui apparaît aux disciples et il leur apparaît pour mettre un terme à son enseignement. Et les disciples vont réagir comme on réagit devant Dieu. Ils vont se prosterner devant le ressuscité.
Le récit ajoute, mais certains eurent des doutes.
Oui, les spécialistes hésitent sur la traduction. Certains écrivent « eux qui, d'autre part, avaient douté », d'autres « mais certains doutent ». En effet, tous les récits évangéliques notent le doute des disciples. Ainsi, dans le récit de Marc, Jésus apparaît à Marie-Madeleine, qui va annoncer la nouvelle aux disciples.
On entend dire que Jésus vivait et qu'elle l'avait vu. Ils ne la crurent pas.
Dans le récit de Luc, on nous dit que ces propos des femmes leur semblèrent du radotage et qu'ils refusèrent de les croire. Le récit de Jean, lui, va raconter l'incrédulité de Thomas. Cesse d'être sans foi, mais aie foi. Alors on a sans doute voulu rappeler le doute des disciples dans le seul passage où Matthieu parle de la rencontre de Jésus ressuscité avec les onze.
Comment comprendre ce manque de foi de quelques disciples?
Mais pour moi, ce doute semble montrer qu'aucun disciple ne s'attendait à la résurrection de leur maître, de leur rabbi. Il y avait eu, bien sûr, les promesses de Jésus qu'il ressusciterait le troisième jour. Mais cette expression était comprise à l'époque comme le dernier jour de l'histoire. C'est ainsi que Marthe sans doute le comprend lorsque Jésus lui dit « ton frère ressuscitera ».
Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.
Que signifie en effet ce troisième jour? Eh bien, l'expression se trouve dans le livre du prophète Osée.
Après deux jours, il nous fera revivre. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence.
Et dans ce texte du prophète Osée, il s'agit du peuple de Dieu qui, parce qu'il a fauté, est comme mort et qui espère que Dieu va le relever et le faire revivre. Au long des siècles, les targoums, qui sont des commentaires et des interprétations de la Bible, les targoums juifs vont interpréter ce texte, mais cette fois en l'appliquant à la résurrection personnelle, celle de chaque être humain.
Il nous fera revivre au jour des consolations qui doivent venir. Au jour de la revivification des morts, il nous ressuscitera et nous vivrons devant lui.
Ce targoum montre comment la tradition juive à l'époque de Jésus, avait compris le troisième jour. Le chiffre 3 n'est donc pas chronologique, mais symbolique. Il désigne le jour du salut et de la délivrance finale. Donc les apôtres n'attendaient pas la résurrection de leur maître le troisième jour après sa mort. Mais ce doute nous fait aussi comprendre que voir le ressuscité ne se fait pas avec les seuls yeux du corps. On ne peut discerner la présence du Seigneur ressuscité qu'avec les yeux intérieurs qui sont ceux de la foi. Il faut être donc sur la longueur d'onde de Dieu pour voir celui qu'il va faire revivre. Et quelle est cette longueur d'onde de Dieu? La longueur d'onde est celle qui permet de comprendre le choix de Jésus de livrer sa vie. c'est la longueur d'onde, j'allais dire, de l'amour qui livre sa vie pour pardonner à celui qui lui fait violence. En effet, le geste d'amour de Jésus qui livre sa vie est une source de pardon, un pardon qui veut vaincre la haine et convertir celui qui est violent. Et les disciples donc ne comprennent pas plus naturellement la résurrection qu'ils n'avaient compris le choix de Jésus de livrer sa vie. En effet, on se souvient que Pierre invitait Jésus à ne pas se livrer aux chefs juifs. Et Jésus lui avait dit « Tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et si l'on se rapporte au récit de Luc, à Cléophas et son compagnon sur la route d'Emmaüs, Jésus dira « Esprit sans intelligence, cœur lents à croire, ne faut-il pas que le Christ souffre pour entrer dans la plénitude de l'amour ?» Et aujourd'hui encore, eh bien, il est difficile, même aux disciples de Jésus que nous sommes, de reconnaître cette manifestation de l'amour divin qui a vaincu la mort. La résurrection de Jésus est en effet la manifestation que la capacité divine d'aimer jusqu'au don de soi dans le pardon, eh bien, que cette capacité divine est plus forte que le mal et la mort et qu'elle peut nous faire revivre.
M'a été donné au ciel et sur la terre. »
Durant son procès devant le Sanhédrin, Jésus avait répondu « Vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Cette réponse de Jésus faisait sans doute référence au texte du prophète Daniel. En effet, le prophète Daniel avait annoncé un Fils de l'homme qui serait vainqueur avec Dieu.
Au Fils de l'homme fut donné empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le serviront. Son empire est empire à jamais, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit.
Il semble bien que ce Fils de l'homme est un personnage qui représente tout le peuple des fils et des filles de Dieu. Ce texte date de 150 ans avant Jésus, et en ce moment de l'époque du peuple, de l'histoire du peuple juif, c'était une promesse qui était pleine d'espérance. En effet, après des siècles d'oppression par les puissances voisines, babyloniens, les Grecs, les Perses, etc., Daniel annonçait qu'Israël serait enfin libéré et que tous les peuples même lui seraient unis dans la foi au Dieu unique. Jésus reprend ce texte, bien sûr, mais c'est en le purifiant de tout contexte politique. Il ne s'agit plus d'Israël et de la soumission des peuples de la terre au peuple de Dieu, mais plutôt de l'invitation qui sera faite à tout être humain, quel qu'il soit, de quelque peuple il soit, de devenir disciple de Jésus. Un être humain, d'ailleurs, qui demeurera toujours libre d'accueillir ou de refuser le message, puisque Jésus, qui a vécu en homme extrêmement libre, invitera son disciple à vivre de même.
Allez donc, faites disciples toutes les nations.
Bien, comme Dieu avait donné à Moïse la mission de rassembler les tribus juives en peuple de Dieu, cette fois Jésus confie aux 11 la mission d'ouvrir son assemblée de disciples à toutes les nations. À notre époque, en l'an 2000, on a bien de la peine à imaginer la révolution qu'a été cet ordre de Jésus. Jésus lui-même, d'ailleurs, malgré qu'il ait fait des incursions en territoire païen, avait limité son enseignement à Israël. À la Cananéenne, qui demandait la guérison de sa fille, Jésus avait répondu
« Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. »
Et donc après Pâques, on peut dire que l'accueil des païens dans l'Église ne se fera pas sans difficulté. Il faudra une intervention toute spéciale de l'Esprit pour décider Pierre à baptiser le centurion païen Corneille et sa famille.
« Je saisis que Dieu n'est pas partial. » et qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture lui est agréable. Jésus le Christ, qui a annoncé l'évangile de la paix, est le Seigneur de tous.
Jésus est le Seigneur de tous. Voilà ce que comprend Pierre dans les Actes des Apôtres. Et il faudra l'enthousiasme de l'apôtre Paul et sa persévérance pour que cette ouverture à tous les peuples se réalise pleinement. En effet, Paul écrira aux nouveaux chrétiens d'Éphèse, qui sont eux venus du paganisme.
En ce temps-là, vous étiez sans Messie, privés du droit de cité en Israël. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a voulu, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps.
Oui. Pour Paul, Jésus veut ne faire qu'un seul être nouveau, un seul être humain, à partir de cette distinction, de cette séparation qui était faite entre le juif et le païen. Et cette réconciliation, eh bien, elle est la raison du choix de Jésus de livrer sa vie. Non seulement ce don de lui-même veut vaincre par l'amour le rejet des chefs juifs, mais Jésus qui est ressuscité, qui est vivant à jamais, va donner sans cesse son amour à ses disciples pour que soit réalisée la paix entre tous les êtres humains. Cette mission de réconciliation doit sans cesse marquer la mission de l'Église. L'Église ne peut jamais se refermer sur elle-même et sur ses fidèles. Elle doit, avec persévérance, sans cesse se convertir pour être le levain de l'unité dans le monde. Le disciple de Jésus doit être un disciple sans frontières, pour reprendre une expression actuelle. Il a la mission d'être un artisan de paix, de la paix en son sens biblique, qui est la réconciliation, la construction de l'unité, pas simplement l'absence de chicane. Dans un monde qui devient un village global, où se côtoient toutes les races, toutes les croyances, eh bien ce rôle des disciples de Jésus revêt toute sa brûlante actualité. Il y a, dans l'enseignement de Jésus, un rejet, j'allais dire un bris de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire de cette idéologie qui fait de l'ethnie le centre. Oh, bien sûr, l'ethnie peut être un ciment d'unité entre des êtres humains, mais jamais l'ethnie ne doit devenir un absolu. Aucune ethnie ne peut prétendre être supérieure et exclusive. On a vu ce que cela donnait avec Hitler. Pour tout humain, l'autre humain, de quelque race il soit, est son frère, sa sœur. Pour Jésus, c'est dans la reconnaissance de Dieu comme l'unique Père que tous les humains peuvent se rassembler. Hélas, encore aujourd'hui, les événements des Balkans manifestent que la paix est éminemment difficile et que l'appartenance à une ethnie peut être une source de rejet et de conflit. Il faut nous rappeler, nous, que nous devons sans cesse accueillir la force de l'Esprit du Christ pour être témoins de son amour et pour être des constructeurs d'unité.
Faites disciples toutes les nations, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit.
Faites disciples, enseignez. Comme Dieu avait donné à Moïse la Torah, c'est-à-dire la règle de vie du peuple de Dieu, ainsi Jésus donne ses préceptes de vie pour que tout être humain puisse vivre à la manière du Dieu Père qui est amour. La communauté, réunie au nom de Jésus, va prendre le nom d'Église. Le mot « Église » vient d'un mot grec « ecclésia » qui veut dire « assemblée », mais ce mot grec traduisait le mot hébreu « kahal » qui désignait l'assemblée du peuple juif dans le désert. L'Église est une assemblée de disciples, une assemblée d'élèves qui se mettent à l'école du maître qu'est Jésus pour y apprendre son évangile et pour en vivre. de ce qui fait de quelqu'un un juif, c'est qu'il est à l'écoute de Dieu Père. En effet, le juif, chaque matin, dans sa prière, redit sa profession de foi qui commence par ces mots, « Israël, écoute ». Eh bien, ce qui fait de quelqu'un chrétien, c'est qu'il est à l'écoute de Jésus qui révèle le Père. « Venez à moi, mettez-vous à mon école », dit Jésus. Et cette école de Jésus n'est plus seulement réservée aux Juifs, elle est maintenant pour tous les peuples. Oh, certes, déjà les Juifs accueillaient des gens d'autres peuples qui se convertissaient au Dieu d'Israël, mais c'était en les agrégeant à leur peuple par la circoncision. Les disciples de Jésus pourront s'ouvrir à tous les humains de quelque peuple qu'ils soient. Et ainsi, le christianisme, qui aurait pu, peut-être, devenir une sorte d'école juive, de confrérie au sein du judaïsme, eh bien le christianisme, l'assemblée des disciples de Jésus, va quitter la synagogue pour s'ouvrir au monde en devenant un peuple universel, un peuple catholique, puisque le mot catholique vient d'un mot grec qui veut dire universel. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Rome, résume bien la mission de cette Église appelée à annoncer l'Évangile à tout être humain.
Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Cet Évangile, qu'il avait déjà promis par ses prophètes, concerne son Fils, Jésus, Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce d'être apôtres, pour conduire à l'obéissance de la foi, à la gloire de son nom, tous les peuples païens dont vous êtes, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. Baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
On peut certes s'étonner de trouver cette formule trinitaire, qui est en effet nouvelle dans l'Évangile et nouvelle dans la bouche de Jésus. Certains spécialistes pensent qu'elle a été introduite plus tard dans le récit évangélique. En effet, il semble qu'au début de l'Église, on baptisait seulement au nom de Jésus. Les lettres de Paul, d'ailleurs, nous font percevoir les tâtonnements pour exprimer cette communion intime entre Jésus le Fils et Dieu le Père et l'Esprit. Relisons quelques-unes des formules qui sont écrites par l'apôtre Paul.
Personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint.
Et encore cette autre formule qui conclut la lettre aux Corinthiens.
La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
C'est d'ailleurs une formule que nous avons reprise pour ouvrir la liturgie eucharistique. Eh bien, baptiser, cela signifie, on le sait, se plonger dans l'eau. Mais cette plongée dans l'eau veut signifier une autre plongée. Le baptême, en effet, plonge le disciple dans l'enseignement de son maître. Et cependant, le disciple ne devient pas seulement l'élève de Jésus. Il est appelé, bien plus, à devenir son ami, car il va recevoir de son maître plus qu'une doctrine. Le maître Jésus lui offre une amitié.
Je ne vous dis plus serviteur, mais je vous dis ami. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Pour être disciple de Jésus, il faut donc plonger dans la vie de Jésus et par lui être imprégné de l'amour du Père en recevant son esprit. Devenir chrétien, c'est en effet plus qu'accueillir des valeurs morales, même si ces valeurs morales sont les plus hautes, celles de l'amour-charité. Devenir chrétien, c'est devenir l'intime de Jésus, et par Jésus, devenir l'intime du Père, parce qu'il nous communique l'Esprit divin.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Cette apparition de Jésus ressuscité est décrite par Matthieu comme un envoi en mission. Dans la Bible, le doute, la réticence sont des attitudes d'ailleurs fréquentes lorsque Dieu donne mission à quelqu'un. Rappelons-nous Moïse qu'il dit à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre que lui, car il ne sait pas parler.
Je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole. J'ai la langue lourde.
Ou bien celle de Jérémie, dont Dieu veut faire un prophète pour les nations, pour les païens.
Ah, Seigneur Dieu, je ne saurais parler car je suis trop jeune.
Et à chaque fois, devant cette crainte, devant ce doute, Dieu promet d'être là.
Le Seigneur dit à Moïse, « Qui a donné une bouche à l'humain? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Et maintenant, va. Je suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. »
À Jérémie, Dieu va dire,
« Partout où je t'envoie, tout ce que je te commande, dis-le. N'aie peur de personne, je suis avec toi. »
Je suis avec toi. Eh bien, au 11 sur la montagne, Jésus dit, « Je suis avec vous. » Et cette affirmation se trouve déjà d'une certaine manière au début de l'évangile, car ce « Je suis avec vous » est en effet le surnom de Jésus, Emmanuel. Emmanuel, ça se traduit « Dieu avec nous ». Désormais, c'est par Jésus et son esprit que Dieu est et qu'il sera avec l'humanité jusqu'à la fin des temps.
Comment comprendre et vivre de cette présence de Dieu dans notre monde?
Oui, dans le fond de notre cœur, est-ce qu'il n'y a pas, comme chez les disciples, un certain doute? Dieu n'est-il pas si peu présent et si grandement absent? Ce Dieu qui n'enlève ni maladie, ni souffrance, ni misère, ni guerre. La question qui était posée par le disciple, « Où est-il ton Dieu ?» c'est une question toujours actuelle. Mais peut-être que si nous trouvons Dieu si peu présent, c'est parce que Dieu, en effet, ne s'impose pas. Dieu est humble et discret parce qu'il n'est qu'amour. Et alors nous sommes parfois tentés de conclure, « Eh bien, Jésus est parti près de son Père, il n'est plus avec nous. » Mais non, Jésus ressuscité nous invite à le vivre aujourd'hui. Lui, je suis avec vous tous les jours. La promesse de Jésus dure encore et il appartient à ses disciples de manifester sa présence.
Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Oui, où rencontrer le Christ vivant aujourd'hui? Eh bien, je cite Madeleine Delbrel, le témoignage d'un seul, qu'il le veuille ou non, porte sa propre signature. Le témoignage d'une communauté porte, si elle est fidèle, la signature du Christ. Oui, seuls de petites communautés, de chrétiens et de chrétiennes, disciples de Jésus qui s'entraident à vivre à sa manière, peuvent témoigner du Christ présent parmi nous, car en vivant l'unité, les disciples deviennent le corps du Christ présent et agissant dans le monde.
C'était du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnons l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.